Chers frères et sœurs, dans l'univers de Joseph, un des objectifs de l'économie, c'est tout simplement de lutter contre le pourrissement des choses. Les raisins deviennent aigres, le blé moisit, le lait tourne, et en ce sens, cela n'a guère changé depuis. Tout produit de la culture agraire ne cesse de s'abîmer, et finalement, tend à disparaître. L'économiste va s'efforcer de travailler sur cette réalité et le bon économiste va réussir à maintenir un peu plus longtemps le produit du travail. Le bon économiste, c'est celui qui arrive à sauver ce qui va se perdre finalement. C'est celui qui arrive à éviter que les produits soient avariés et qu'ils soient finalement jetés. Le bon économiste, tel que nous le découvrons dans les textes bibliques, c'est celui qui arrive à résoudre l'équation, rendre invariable ce qui, dans quelque temps, sera avarié. Le petit cours d'économie biblique commence avec Joseph. Nous avons entendu à quel point les frères de Joseph sont jaloux de lui. Alors, Joseph va-t-il disparaître? Eh oui, bien sûr, on n'échappe pas à la jalousie de ses frères. Ésaü en a déjà fait les frais. À moins qu'on trouve un bon économiste et que cet économiste trouve une bonne solution pour sauver ce qui risque d'être perdu, pour maintenir en bon état ce qui est sur le point de se gâter. Le premier à essayer quelque chose, c'est Ruben. Ruben fait la proposition suivante. Essayons de stocker Joseph. Essayons de le stocker dans une citerne. À première vue, c'est une bonne idée. Mais nous en faisons tous l'expérience, même lorsque nous avons un garde-manger. Stocker un produit, une denrée, ce n'est possible qu'un temps. Au bout d'un moment, ça se gâte quand même. Au bout d'un moment, la denrée s'abîme, même si elle est stockée dans de bonnes conditions. Alors vous pouvez imaginer ce qu'il serait advenu de Joseph dans sa citerne au bout de quelques jours, d'autant qu'on précise bien qu'il n'y avait pas d'eau dans cette citerne. Il aurait sérieusement dépéri, puis moisi. Alors stocké à première vue, cela semble une bonne idée. On se dit, pour préserver quelque chose, il faut le stocker convenablement. Mais ce n'est valable qu'à court terme, à vrai dire. Judas, un autre frère, propose une deuxième solution. Cette fois, il ne s'agit plus de stocker, il s'agit de remplacer, de substituer. Pour éviter que Joseph pourrisse dans son trou, il propose de le vendre. C'est-à-dire de l'échanger contre de l'argent. Et en vendant Joseph contre 20 pièces d'argent, Judas va effectivement sauver son frère. Joseph va effectivement être préservé et il ne deviendra pas la pourriture à laquelle il semblait être condamné. Nous voyons déjà de quelle manière le stockage est loin d'être un bon modèle économique dans la Bible. Ce qui est plutôt encouragé, c'est la transformation. Solution contre le pourrissement du blé, du raisin, du lait, le pain, le vin, le fromage. Ce que vous avez produit devient autre chose. Il s'agit d'une économie qui ne travaille pas sur le stockage, sur la tentative de maintenir quelque chose en l'état à tout prix, mais sur le différent. C'est une économie qui travaille sur le changement. Ce blé n'est plus du blé, c'est du pain. On passe de l'état statique, ce lait est du lait, et nous pourrions dire qu'il s'agit là d'une sorte de tautologie, à une métaphore où le lait, c'est du fromage. L'économie biblique est principalement une économie de la métaphore. On sauve du pourrissement, on sauve de la mort en transformant ce qui est sur le point de dépérir et en faisant quelque chose de plus grand que ce qu'il était au départ. Et nous trouvons un écho de cela dans le deuxième épisode que nous avons lu au sujet de Joseph. Lorsqu'il se retrouve à nouveau dans un trou, cette fois avec un échanson et un panetier. Il est donc en train de pourrir à nouveau, entouré d'un sommelier chargé du service du vin auprès du pharaon et d'un panetier qui est chargé du service du pain auprès du même pharaon, le roi d'Égypte. Ces deux personnes sont donc au cœur d'une économie de la transformation qui change le raisin en vin, qui change le blé en pain. Et ce sont eux qui vont nous offrir l'occasion d'approfondir un peu, de poursuivre notre réflexion théologico-économique. Ouvrons notre esprit et entendons qu'au sommelier qui lui demande ce qu'est cette coupe remplie du fruit de la vigne, Joseph lui révèle « Ceci est ton sang. Tu seras réhabilité dans ta charge. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Au boulanger qui lui a demandé ce qu'est cette corbeille de pain dans laquelle les oiseaux mangent, Joseph lui révèle « Ceci est ton corps et tu seras pendu au bois. » Qu'apprenons-nous en creux avec ce traité de théologie économique? Ce que de nos jours nous oublions peut-être un peu trop souvent et qui est certainement à la base de bien des insatisfactions que nous avons évoquées en préambule, ce qui est à la base de bien des conflits sociaux finalement, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique unifié. Il n'y a pas un système économique, une vision de l'économie qui permettrait de résoudre toutes les difficultés et de venir à bout de tous les problèmes. Ce que souligne l'histoire de Joseph, c'est qu'il n'y a pas une série de bonnes recettes qu'il suffirait d'appliquer en toutes circonstances pour réussir sa vie, pour éviter le dépérissement et la perte. Cette histoire de Joseph est lourde de cet avertissement. Méfiez-vous de ceux qui prétendent avoir une réponse globale, valable à tous les niveaux, valable en tous les lieux. Les récits bibliques, une fois de plus, nous enseignent que la vie est loin d'être mécanique et qu'il ne suffit pas de répéter à l'infini ce qui a marché autrefois pour que ça fonctionne encore aujourd'hui. Les récits bibliques nous enseignent que ce qui peut être positif un jour peut être négatif le lendemain, et inversement, bien sûr. À première vue, les songes des deux serviteurs du roi d'Égypte sont assez semblables. Et au fond, nous nous attendrions à ce que l'interprétation de Joseph soit la même pour les deux. Que l'interprétation de Joseph conduise au même résultat. Tout semble aller dans le même sens. Le même chiffre 3, la même allusion à l'élément agricole qui constitue le cœur de métier de la personne. Et jusque dans l'explication de Joseph, tout semble aller en harmonie, puisque tout commence par relever la tête. Les deux vont avoir la tête relevée par le pharaon. Sauf que cela finira de la manière la plus opposée qui soit entre les deux. De même, il semble que nous serions en droit de penser qu'il suffirait de vendre ce qui est sur le point de dépérir pour le préserver, comme cela a si bien fonctionné pour Joseph. Et on pourrait se dire que là, on a une bonne recette. Quelque chose qui est sur le point d'être perdu, vendons-le, et comme cela, l'argent que nous aurons en échange fera qu'on n'aura pas tout perdu. N'est-ce pas justement ce que pense un autre Judas lorsqu'il voit que son maître, Jésus, va certainement être lapidé lors d'une prochaine querelle publique. Et il se dit, comment faire pour le préserver? Comment faire pour lui sauver la vie? Et si je faisais comme mon ancêtre? Et si je le vendais pour éviter que son sang coule? Vendre Jésus pour éviter qu'il ne soit lapidé lors d'une prochaine querelle. Seulement, Judas semble oublier qu'il n'y a pas de recette universelle. Et il ne suffit pas toujours de vendre quelque chose, de vendre quelqu'un, comme certains se débarrassent des crédits non solvables pour sauver la situation. Des solutions qui ont été bonnes par le passé peuvent produire par la suite de mauvais résultats. Mais de mauvaises recettes peuvent également produire de bons résultats. Nous avons lu que Joseph, arrivant vers ses frères, est aperçu de loin. Et cela laisse le temps aux frères d'imaginer une sorte de complot pour le mettre à mort, et en plus pour maquiller le crime. Et avant qu'il ne soit près d'eux, les frères ont eu le temps de comploter pour le faire mourir. L'évangéliste Luc, de son côté, rapportera une histoire dans laquelle Jésus présente Dieu comme celui qui voit de loin également. Et lorsqu'il voit au loin l'un de ses enfants, qui est sur le point d'être perdu, il se réjouit. Et il lui prodiguera finalement tous les soins qu'il faut pour lui redonner pleinement vie. C'est là encore une manière d'entendre qu'il n'y a rien de mécanique dans l'existence. Nous avons entendu que le narrateur du livre de la Genèse précise que l'échanson qui va réintégrer la cour du roi ne va pas se souvenir de Joseph. Alors que ce dernier lui avait demandé de ne pas l'oublier une fois dehors pour obtenir sa libération de prison. Et nous pourrions dès lors penser que les gens ont décidément toujours la mémoire courte et qu'une fois qu'ils sont sortis d'embarras, ils oublient leurs compagnons d'infortune. Et cela finalement pourrait être assez désespérant. Et nous pourrions nous dire, à quoi bon l'entraide? À quoi bon le diaconat? Après tout, nous allons aider des gens à s'en sortir et une fois qu'ils s'en seront sortis, ils oublieront et ils n'auront même pas la reconnaissance du ventre. Est-ce que cela empêche Joseph d'agir? Non, car il le fait pour le bien de la personne, pas pour le bien que lui va en retirer. Et puis, l'histoire peut se retourner. Après tout, n'est-ce pas une demande similaire qui est faite à Jésus lorsqu'il est sur la croix, entouré par de larrons qui pourraient bien être, après tout, un échanson et un panetier? Et voilà que Jésus, lui, montre qu'on peut ne pas être négligent. Jésus, lui, montre qu'on peut ne pas avoir la mémoire courte. Jésus montre qu'on peut se souvenir de quelqu'un et tenir ses promesses, et qu'effectivement, il aura part, lui aussi, à son propre règne. Notons également que 3 jours ne constituent pas forcément une période heureuse. On dit souvent, 3 jours, c'est le temps qu'il faut pour ressusciter. C'est le temps qu'il faut pour s'en sortir, pour rebondir. C'est aussi le temps qu'il faudra pour que le panetier perde définitivement sa charge, soit pendu haut et court. On ne passe pas forcément 3 jours dans le ventre d'un poisson pour en ressortir meilleur qu'avant. On peut aussi, au bout de 3 jours, découvrir que la suite de l'histoire continue plutôt mal pour nous. Cela pour nous mettre en garde. N'en déplaise à certains qui aiment que Dieu soit un principe d'absolu et que la Bible soit une référence d'orthodoxie, la foi chrétienne qui se nourrit de la méditation de la Bible découvre à quel point les textes bibliques relativisent considérablement les institutions humaines. À quel point les textes bibliques relativisent considérablement les sciences. Et je ne dis pas que les textes bibliques dévalorise les institutions, que les textes bibliques dévalorisent les sciences. Bien au contraire, d'ailleurs. Simplement, ces textes refusent les explications trop simples. Ils refusent les mécanismes inexorables. Ils refusent une sorte de la pensée unique qui pourrait être résumée en une théorie unique. Mais en physique, il n'y a pas de théorie unique. Il y a et la loi de la gravitation, et la loi de la relativité, il y a même la mécanique quantique. Et cela est vrai aussi en économie. On ne peut pas se contenter d'un capitalisme orthodoxe, d'un marxisme orthodoxe ou d'un néolibéralisme orthodoxe. Et en théologie, c'est pareil. Il n'y aurait pas un modèle explicatif qui vaudrait par-dessus tous les autres. Ces textes nous révèlent aussi que les échecs de nos prédécesseurs ne nous condamnent pas forcément à essuyer les mêmes échecs. De même d'ailleurs que la réussite de nos aînés n'est pas une garantie pour que nous réussissions nous-mêmes si nous marchons dans leurs pas. Au fond, ces textes bibliques parlent à toutes ces situations de notre quotidien qui sont autant de situations qui pourrissent petit à petit pour nous rappeler qu'il n'y a là rien d'inexorable. On peut bien entendu laisser faire. On peut bien entendu laisser pourrir une situation en ne faisant rien. Mais on peut aussi agir. On peut aussi intervenir, changer les situations, les améliorer et parfois les sauver, à la manière de Judas, l'un des frères de Joseph. Se contenter de reproduire les bonnes vieilles recettes du passé, comme ça, à l'identique, à la lettre près, n'est pas toujours suffisant. Cela, Judas l'Iscariote le montre admirablement. L'économie du salut consiste à envisager les personnes, les situations, le monde, comme bien plus que ce qu'il y a à voir et à entendre, de prime abord. L'économie du salut consiste à sortir des tautologies où le pain est du pain et doit rester du pain, où le méchant est un méchant et doit rester un méchant, où l'imbécile est un imbécile et doit le rester à jamais. Il faut sortir de cette tautologie qui enferme le monde dans des stéréotypes bouclés à double tour pour accéder à l'univers de la métaphore. Cette métaphore vive, dynamique et surtout pas statique, c'est opérer les bonnes transformations. C'est faire des opérations de change nécessaires. Et cela pour faire repartir les histoires qui ont un peu tendance à caler. Pour redonner vie à ce qui est un peu en train de se décomposer. Et l'économie du salut dont nous parle la Bible, c'est une économie qui nous enjoint à ne pas figer les choses en l'état, à ne pas mettre des couches et des couches de vernis pour que rien ne bouge, rien ne change, mais au contraire, à revitaliser, à rajouter des choses peut-être étrangères et différentes, pour que ce qui est sur le point de dépérir retrouve non seulement une nouvelle jeunesse, mais un nouvel épanouissement, et s'avère être plus grand, plus important qu'il n'était au départ. C'est là en vérité tout le projet de l'Éternel. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, pour chanter dans notre recueil Louanges et prières, au cantique 184, les strophes 2, 3 et 4 du cantique 184.